France Inter.
Le scénariste, réalisateur et écrivain Santiago Amigorena grandit en Argentine jusqu'à ses 12 ans, puis s'exile avec sa famille à Paris en passant par l'Uruguay. Héritant du silence de son grand-père, il apprend à se taire dans une nouvelle langue, celle qu'il utilisera pour écrire après l'avoir embrassé par les lettres, la philosophie et l'histoire de l'art. Auteur de plusieurs scénarios de son ami de lycée Cédric Clapiche, dont Le Péril Jeune et le prochain film montré à Cannes, il signe aussi ceux des films Post-Coitum Animal Triste de Brigitte Rouen ou Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa, je les cite parce que ce sont des jolis films. En parallèle de son travail littéraire, il réalise les films Quelques jours en septembre, Another Silence et Les Enfants Rouges. Il vient de mettre la célébration du cinéma au cœur de son dernier livre, Le Festival de Cannes ou Le Temps Perdu, paru chez POL, avant-dernier tome de l'audacieuse fresque autobiographique qu'il poursuit depuis presque 30 ans et qui avait débuté par l'ouvrage Une enfance laconique. Dans l'ouvrage précédemment cité, montrant dès le titre son adoration de Proust, Santiago Amigorena raconte 40 ans de Festival de Cannes à travers ambitions cinématographiques et littéraires, aléas amoureux et crises mélancoliques. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Santiago Amigorena.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, il y a la traduction de l'Iliade, publiée chez POL, et un petit roman écrit par, par le très sympathique traducteur Emmanuel Lascaux. Et voilà, ça m'a poids des pianos. C'est un texte que je trouve extrêmement joyeux, juste enthousiasmant, et qui a voilà, qui a une ambition littéraire qui me semble se perdre un peu de nos jours. Il n'est pas facile à lire, il faut se laisser aller à ne pas comprendre énormément de choses, mais c'est un peu le dernier livre qui m'a enthousiasmé.
Et je recommande par cette occasion aux auditeurs l'émission avec Emmanuel Lascaux qui était vraiment épatante et très enthousiasmante. Santiago Amigorena, dès l'âge de 20 ans, vous ne vous voyez pas passer votre vie à sauter d'un roman à un autre et vous cherchiez un projet littéraire plus global, plus ambitieux. Vous pensiez à Proust, Joyce, Musil, Borges. Et je voulais savoir si vous en étiez déjà voulu d'avoir mis la barre aussi haut dès le début, puisque ça met une pression terrible.
Moi, je m'en veux tous les jours, mais j'aime beaucoup dire qu'on ne peut pas regretter les décisions ou la prétention, l'ambition de cet âge-là, de l'adolescence ou quand on a 20 ans. C'est-à-dire que, bon, c'est encore du Proust, mais ce qu'on peut regretter surtout, c'est le fait de ne plus avoir cette ambition, de ne plus avoir cette prétention, de ne plus avoir cette spontanéité qui nous faisait avoir des buts absolument au-dessus de nos moyens. Donc je le regrette tout en me justifiant par Proust de ne pas le regretter.
Vous avez prévu 6 parties pour cette œuvre littéraire. Là, vous venez de publier le premier tome de la dernière partie. Qu'écrirez-vous une fois ce projet achevé ?
Bah, pendant très longtemps, je me suis dit que j'allais vraiment arrêter d'écrire. Ça me semblait un but assez... pas noble, mais disons... plutôt vivant, joyeux, voilà, de voir ce que c'était la vie sans l'écriture, sans le fait de faire ce que je fais depuis plus de 30 ans, depuis presque 40 ans, qui est de me lever tous les jours très tôt, avant le soleil, et de me mettre à ma table et de coucher quelques lignes. Donc qu'est-ce que ça allait être ma vie sans ça ? Maintenant, je me dis que j'espère quand même continuer à écrire et me tourner plutôt vraiment vers la poésie.
Ah, la poésie ?
Oui, je pense que c'est... pour moi, ça a toujours été évidemment extrêmement important en tant que lecteur et aussi j'ai écrit beaucoup de poèmes que j'éparpille un peu dans mes livres, mais aussi énormément qui ne sont pas regroupés. J'ai jamais publié un recueil de poèmes. Je pense que ça m'arrivera peut-être dans mon grand âge.
Alors là, on a commencé à parler d'ambition. Parlons de prétention. C'est un mot que vous avez déjà prononcé d'ailleurs depuis le début de cette émission. C'est une caractéristique qui revient souvent à votre sujet et sous votre plume, votre prétention. Vous pensiez carrément publier sous le pseudonyme de Jean Orchamps.
Oui, ça c'est... Jean Orchamps est un personnage du Péril Jeune, en fait. Quand on écrivait le Péril Jeune, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un, voilà, qui n'apparaissait jamais à l'écran, et donc il y avait des gens qui venaient et qui disaient « Est-ce que tu as vu Orchamps ?» Évidemment, quand on voit le film, personne ne pense que Orchamps, ça veut dire « Orchamps ». Donc évidemment, il n'est pas là, ce personnage. Et ça m'est resté comme, voilà, comme une possibilité d'effacement un peu discret de l'auteur, qui me semble assez sympathique.
Mais vous espérez tout de même que cette prétention que vous mettez en scène et que vous raillez Santiago Amigorena est une dimension humoristique.
C'est-à-dire que quand on a l'ambition que j'ai eue à 20 ans, je parle de moi à 20 ans parce que je ne sais pas si aujourd'hui je dirais que j'ai cette même ambition, mais quand on a eu cette ambition-là, c'est-à-dire d'écrire... seulement une œuvre qui pouvait être comparée aux très grandes œuvres du XXe siècle. Forcément, quand on l'écrit à mon âge, et après avoir publié une douzaine ou un peu plus de livres, on se rend compte que la seule manière de continuer à avoir cette ambition, c'est-à-dire continuer à faire le même projet que je fais depuis 35 ans, c'est en se moquant un peu de celui qu'on est devenu et de celui qu'on était aussi, parce que on peut pas, voilà, j'ai de la tendresse évidemment, comme peut-être tout le monde, pour l'adolescent que j'étais ou pour le jeune homme que j'étais, mais si je le regarde depuis aujourd'hui, je constate sans doute beaucoup plus d'échecs que de réussites, donc je préfère m'en moquer.
Dans ce tome, le Festival de Cannes, vous parlez de vous comme d'un monstre d'égoïsme et de prétention que j'étais déjà et que je ne devais jamais cesser d'être. Est-ce que vous avez essayé de vous améliorer, ou est-ce qu'il y a une complaisance dans cette caractéristique, ou un fatalisme ?
Je pense que je tiens un peu compte des gens qui sont autour. Donc
vous vous vantez en fait.
Ce monstre-là, c'est aussi un monstre qu'on me décrit être. Donc je ne suis pas le seul coupable de cette appréciation sur moi-même, même si c'est moi qui l'écris et je parle de moi, ce qui est déjà une preuve d'un certain égocentrisme assez maladif. Mais c'est pas. En tout cas, je cherche pas à améliorer ça. Je cherche sans doute à améliorer mon rapport aux autres. Je pense que voilà, comme la plupart des êtres humains, j'aime beaucoup cette idée qu'on est fondamentalement plusieurs. C'est-à-dire que c'est pas du tout qu'on est en étant un individu et qu'après seulement on découvre les autres et qu'on négocie avec eux. Bon, voilà, toute une partie de la pensée politique qui nous fait concevoir les êtres humains comme des ennemis. Moi, je pense plutôt le contraire. Je pense qu'on est fondamentalement nous-mêmes parce qu'on est ensemble, parce qu'on a des choses à faire ensemble. Donc, j'essaye d'améliorer cette relation avec les autres, de laquelle, parfois, l'écriture m'exclut.
Ça, on va y revenir, justement, de vivre sa vie ou être dans l'écriture ou faire autre chose, parce que c'est ce qui vous a toujours, justement, un peu torturé, l'œuvre cinématographique et l'œuvre littéraire. Là, vous avez réussi à associer les deux. Vous disiez dans une interview de 2009, Santiago Amigorena, « Désormais, je n'existe plus dans mes souvenirs et je n'existe plus que dans mes souvenirs et dans les histoires que j'invente. » Et ça, c'est intéressant parce que pour vous, la question de la réalité, finalement, vous intéresse peu dans votre œuvre littéraire. Et pourtant, on pourrait être un peu perdu puisque vous citez les vrais noms. Il y a Cédric Clapiche, Paolo Branco, Julie Gayet, Juliette Binoche. Et en première page, juste sous le titre « Le Festival de Cannes ou le temps perdu », il y a marqué « roman », entre parenthèses, ou pas. Alors, quel est votre rapport au réel ?
Mon rapport au réel, je me sens un peu en psychanalyse. Mon
c'est
rapport
le cas.
Au réel. je conçois assez simplement, disons, la vie comme quelque chose qu'on pourrait dire perdu entre deux temps, le passé et le futur, et avec ce que crée le passé et le futur qui est. Pour moi, pas un temps, mais un espace, qui est qu'elle présent. De cet espace, évidemment, on ne peut pas rendre compte. C'est-à-dire qu'on ne peut rien dire sur le présent, on peut ne rien écrire. C'est sans doute ce qu'on tente de faire, ce qu'on essaye de faire, ce que la poésie essaye de faire presque tout le temps, ce que Bachelard appelait une métaphysique instantanée. Bon, il y a beaucoup d'écrits autour de ça. Mais disons que mon rapport, elle, c'est de dire tout ce que j'écris sur mon passé ou tout ce que j'invente a le même degré de réalité, c'est-à-dire ça se passe que dans ma tête, que ce soit des souvenirs ou des rêves, voilà, on sait que c'est fait avec la même étoffe. Et il y a l'écriture, c'est-à-dire le moment où j'écris, qui est un moment qui est pour moi absolument fondamental, où j'ai un stylo à la main, quoi. C'est pas l'écriture, c'est pas la publication, c'est pas tout ce qui vient après, c'est pas le fait de parler là d'écriture. C'est ce que je fais tous les jours, pas très longtemps, mais qui est pour moi la chose la plus importante de ma vie, avec évidemment l'amour, mes enfants, des choses qui me font sentir vivant. Mais ce moment-là que je perpétue comme un rituel extrêmement important, je peux rien en dire. Quoi. C'est vraiment du présent pur. Donc voilà, les mots le trahiraient quoi qu'il arrive.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Santiago Amigorena, vous publiez le Festival de Cannes chez POL. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous lire la première page ?
Bien sûr. Où est la vie ? Où est la mort ? Où est la joie ? Où la douleur ? Quel est le temps que j'ai le plus gagné ? Quel est celui que j'ai le plus perdu ? Le temps passé à le perdre ou celui passé à la recherche de ce temps perdu ? Comme chacune de ces parties que j'ai délimitées pour m'inventer un passé, mon enfance laconique, ma jeunesse aphone, mon adolescence taciturne, ma maturité coite, ma vieillesse discrète a été également divisée en deux côtés distincts. Le côté de Cannes, frivole comme une pluie de printemps, et le côté de Patmos, profond comme un long crépuscule d'été. Et, bien que la frivolité aime toujours à dissimuler sa part d'intensité, tout comme la profondeur cache toujours son désir de futilité, je vais, dans les quelques pages qui suivent, si vous me le permettez, m'en tenir au côté le plus léger.
Ce qui n'est pas forcément respecté quand on lit le livre. En tout cas, dans ce livre, Santiago Amigorena, vous évoquez votre éternel tiraillement entre le cinéma et l'écriture, que vous appelez votre divine vocation. Avez-vous réussi à résoudre ce tiraillement après toutes ces publications ?
Je l'ai résolu. Je pense dans ma vie d'une certaine façon, parce que le cinéma, bon, qui a toujours été mon métier, quoi, c'est là le seul métier que j'ai jamais exercé, donc je vis du cinéma depuis que j'ai 24 ans, est devenu de plus en plus amusant à faire. Donc j'écris beaucoup avec mon ami Cédric Clapiche, j'écris parfois d'autres projets, mais toujours avec des gens avec qui je m'entends très bien et avec qui voilà, le travail est joyeux. Et les quelques fois où je me tourne un peu vers la réalisation, c'est aussi avec des gens que j'aime, sur des projets qui sont très, très pour ce qui est du cinéma, disons, pas très compliqué en termes humains, financiers, etc., etc.
Vous écrivez dans ce livre, dans ce monde du spectacle, semblable à un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part, et cela reprend la définition de Dieu selon Pascal, une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Et donc la question est la suivante, votre divinité, c'était le Festival de Cannes ou c'est la littérature ?
Non, ma divinité, c'est la littérature. Le cinéma est le contraire du Dieu. C'est-à-dire que Dieu, le centre est partout et la circonférence nulle part. Le cinéma, la circonférence est partout et le centre nulle part. C'est-à-dire que c'est ce que je pense pas du cinéma en tant qu'art. Le cinéma, parfois, touche des choses qui sont absolument magnifiques et profondes. Mais disons que tout ce qui se passe autour du cinéma et le Festival de Cannes me semble un univers où le centre n'est absolument nulle part. On peut le chercher très longtemps et ça n'empêche pas que le centre n'est nulle part, comme dans la fête, dans la danse, le centre n'est nulle part non plus et ça donne des choses magnifiques à vivre en tout cas.
Hors antenne, je vous ai demandé Ça ne vous fait pas peur de passer une vie à courir après une chimère ? Et vous m'avez répondu cette chose très jolie. Est-ce que ce n'est pas ce que fait tout le monde finalement ?
Oui, est-ce que ce n'est pas ce que fait tout le monde avec plus ou moins de conscience ? C'est-à-dire qu'il y a des... Je pense qu'il y a des êtres, voilà, je ne sais pas, Pessoa, Kafka, les grands maîtres du rien, ils avaient une conscience extrême de cet état de l'être humain. Ça n'empêche pas de faire, quoi. C'est ça tout le mystère, c'est que quelle que soit la conscience qu'on a de l'inutilité de notre tâche, très souvent on continue à l'accomplir.
Sisyphe.
Oui.
J'oubliais quelquefois que le cinéma, c'est des gens qui investissent de l'argent et qui investissent des idées, leur cœur. Les acteurs investissent leur corps, en tout cas. Le cœur, des fois, bien, bien après.
Moi, j'investis mon cœur aussi.
On a rarement vu beaucoup de techniciens investir dans la production. Excuse-moi.
Peut-être.
On a rarement vu beaucoup de techniciens inventer du matériel. C'est pas un ingénieur du son qui a inventé le Nagra. C'est pas toi qui a inventé la Riflex. Tu sais même pas qui a inventé la Riflex et pourquoi. Tu veux que je le dise ? C'est Hitler qui a inventé la Riflex. Pour pouvoir suivre les armées rapidement. Voilà pourquoi vous avez une caméra légère.
Je me suis passé de la question.
Non, mais Ariflex s'est développé à partir de ça.
C'est une histoire.
Eh bien oui, c'est des militaires, mais c'est pas...
Je connais l'histoire.
Oui, eh bien je regrette effectivement qu'un caméraman ou qu'un opérateur n'ait pas à un moment inventé comme un chanteur invente une chanson. Et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on peut savoir effectivement quand on se fait insulter par Nana quels sont les risques qu'il prend sur un film. S'ils ne veulent pas de risques, il n'en prend pas. Ça m'est égal, mais il n'a pas besoin de faire la gueule non plus. Il y a assez de chômeurs en France.
Jean-Luc Godard, toujours aussi cordial, en 87 sur Antenne 2 dans l'émission Cinéma Cinéma. Et si j'ai voulu qu'on entende sa voix, c'est déjà parce que Santiago Amigorena vous citait une réflexion qu'il a eue un peu du même acabit dans votre livre. Et parce que votre premier festival en 85, 2 ans avant cette interview, était diffusé Détective de Godard. Mais je crois que vous n'avez pas de souvenir de ce film.
J'ai un vague souvenir, quoi. Je ne l'ai pas revu depuis... J'ai le souvenir d'avoir vu Détective, je crois, à 8h30 du matin, après une nuit blanche. Donc voilà, c'était pas les meilleures conditions, sans doute, pour voir le film. Mais...
En tout cas, vous avez voulu faire du cinéma pour reconquérir votre premier amour, une comédienne philippine. Et vous écrivez son prénom avec le F de philosophie, avec le F grec.
Oui, c'est comme ça que je l'écrivais à l'époque. C'est resté, voilà. C'est comme ça. J'ai toujours écrit son nom de cette manière-là. Après, maintenant, je différencie un peu la Philippine écrite avec le phi grec de la Philippine écrite avec un ph français, en fonction de mon rapport à mes souvenirs. Donc, quand le souvenir se fait distant, quand j'accepte très naturellement que l'amour est fini, je l'écris avec une orthographe classique.
Alors justement, parlons de la fin de l'amour, parce que c'est quelque chose qui hante à peu près toutes les pages de votre dernier livre. Et vous vous adressez dans ce livre à votre amoureuse actuelle, Marion. Vous parlez beaucoup d'amour, mais à certains moments, on se demande si le travail ne compte pas plus. Et vous passez votre temps à vous étonner de la fin de l'amour ou de l'oubli. Et j'aimerais citer quand même 3 phrases, parce que... Enfin, je vais vous poser une question après. D'abord, au sujet de Lucie, que vous avez aimée pendant 12 années, vous dites « ou que j'ai cru aimer ». Et c'est une idée qui revient, croire qu'on aime quelqu'un. À propos de Julie, femme que vous alliez aimer plus que vous n'aviez jamais aimée, vous dites « comment écrire sur quelqu'un qu'on a tant aimé alors qu'on ne l'aime plus ». Et puis, sur Philippine, vous dites « qui dans votre cœur n'était plus rien depuis 20 ans ». Et je me demande si vous n'insistez pas un peu sur le « plus rien ». C'est un peu cruel, si je peux me permettre.
Pardon, le but n'est évidemment pas d'être cruel, mais c'est votre lecture qui insiste sur le plus rien, très clairement. Je suis très content. Je pense que c'est une lecture possible. Il y a un mot vers la fin du livre sur Philippine qui, pour le coup, me semble vraiment cruel. C'est que, à un moment dans la dernière fête qui occupe presque les 100 dernières pages du livre, je dis qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, que me saluer, que je la reconnais pas et que voilà, pendant une seconde je la reconnais pas. C'était Philippine. Ça évidemment c'est absolument calqué sur la rencontre entre Marcel et Charlus juste avant la dernière soirée chez Guermantes. Donc, est-ce que c'est un éloge de Philippine de la comparer à Charlus? Évidemment, plein de gens pourraient dire non, parce que Charlus, à la fin de la recherche, est pas physiquement, en tout cas, un personnage extrêmement agréable. Mais pour moi, il n'y a que de la tendresse d'inclure Proust dans quelque chose entre moi et quelqu'un que je traite comme un personnage.
Vous dites que vous le singez depuis des décennies et que vous allez même jusqu'à vous demander si vous n'avez pas essayé d'imiter dans votre vie son œuvre.
Oui, parfois je me demande vraiment. C'est-à-dire que parfois je me demande, vu que je n'écris que ce livre-là depuis tellement longtemps, si je ne me suis pas forcé à vivre des choses pour pouvoir les écrire. Il y a un moment où je pense que dans ma vie, c'est pas toutes les vies ne sont pas pareilles, mais dans ma vie, la littérature et surtout la recherche du temps perdu, donc ma lecture de la recherche du temps perdu, a provoqué des choses que je n'ai pas complètement maîtrisées. Je donne un autre exemple avant dans ma jeunesse, quand j'avais une vingtaine d'années, où j'ai eu une énorme passion pour un livre chinois, Le rêve dans le pavillon rouge de Cao Shuixin. Ma passion m'a amené vers le fait de manger du riz tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on dérive, disons, d'une lecture à manger du riz tous les jours ou à s'inscrire après en chinois, je suis sûr, mais voilà, c'est ma relation à la littérature a été comme ça.
Ça, je vais y revenir parce que je trouve ça assez amusant. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez égocentrique, on parlait de prétention tout à l'heure, et je voudrais quand même citer un passage du livre pour montrer que vous avez de l'humour, Santiago Amigorena.
Merci.
Presque rien de ce que vit et pense le protagoniste de l'histoire, le têtard graphophile Santiago H. Amigorena au début des années 80, n'aurait pu être écrit par l'auteur, le crapaud graphomane Santiago H. Amigorena, s'il n'avait vécu ce qu'il vivait au début des années 2000. Alors, malgré votre prétention et votre arrogance dont vous vous amusez, vous n'êtes pas très tendre avec vous, vous êtes même ironique. Vous aimez-vous ?
Si on posait cette question à la femme que j'aime aujourd'hui, Marion, donc qui apparaît dans le livre, je pense qu'elle n'aurait aucun problème à dire que je m'aime plus que les autres. mais si c'est le cas, quoi, je laisse la question ouverte, si c'est le cas, je peux dire que j'essaye d'apprendre à aimer plus les autres que moi-même.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Gigi!
So, I haven't got enough money to get home until I meet this bartender who wanted to lend me the money.
That's all right. Forget it. It's all right.
Cool boy.
So I go back to the girl's apartment, but her roommate's really pissed off at me for the way I treated her friend.
This the guy?
Hi.
So I march right in there to apologize.
Come on!
But she'd already killed herself. I was too late.
Oh, wow.
Is that all they is?
After hours. When anything can happen, and usually does.
Is that unbelievable or what?
Santiago Amigorena, j'ai décidé de jalonner l'émission par des repères chronologiques avec les films que vous avez vus et peut-être oubliés ou appréciés au Festival de Cannes et que vous citez dans votre ouvrage, le Festival de Cannes, là c'était After Hours de Scorsese. Là, à ce moment-là, quand ça sort en 86, vous êtes dans les queues de la SACD pour avoir des invitations. Ça a beaucoup changé en plusieurs décennies. Racontez-nous un peu le Santiago Amigorena de cette époque.
Non, j'étais vraiment un jeune garçon qui voulait, plus que vouloir faire du cinéma, qui voulait faire partie de ce monde. Donc c'est vrai que voilà, je raconte assez simplement ce que c'est d'arriver à Cannes, de ne connaître pratiquement personne, de se battre pour aller à la moindre projection, de ne jamais pouvoir rentrer dans une fête, et ensuite l'apprentissage qui a été plutôt très long, je dirais, comment est-ce qu'on commence par resquiller, par mentir pour avoir des invitations, par peu à peu être accepté dans ce monde. Et effectivement, j'ai commencé aussi à travailler, donc une sorte de reconnaissance professionnelle qui permet de petites choses. Et voilà, bon, disons que les 40 ans que je raconte... font passer le narrateur du livre du pire état dans lequel on peut se trouver à Cannes, ou presque de pire état, parce qu'il y a toujours plus pire, à un état qui peut être extrêmement enviable, mais qui n'est pas moins loin du sommet véritable, disons, qui est aussi illusoire que la base véritable de la pyramide, parce qu'il n'y a pas, on n'arrive jamais tout en haut. Et voilà, c'est, disons que ma prétention littéraire m'a préservé du désir d'arriver tellement haut dans le cinéma, et donc finalement j'en ai pas assez souffert pour que ce soit le sujet principal du livre. C'est quelque chose que je peux traiter avec sans doute un peu d'humour.
Oui, vous avez une certaine ironie qui va avec une lucidité. Et vous, l'amour, le cinéma, la littérature sont toujours liés. Et d'ailleurs, quand vous vous consolez parfois de l'absence de prix au festival, vous pensez à Proust, Joyce ou Borges qui n'ont jamais reçu le prix Nobel. Et vous dites aussi que vous étiez à deux doigts, en 92, de devenir un scénariste aigri.
Oui, bon, ça c'est une petite pensée un peu triste que j'ai par rapport au métier de scénariste. Je pense que tous les scénaristes devraient finalement soit se tourner vers la littérature, soit se tourner vers la réalisation. En tant que métier, évidemment, scénariste, c'est un très beau métier. Quand on aime le cinéma, être scénariste, réussir à écrire des choses qui se font, c'est-à-dire que c'est ça la vraie réussite du scénariste, c'est que ce qu'il écrit soit tourné, devienne un film. Donc aussi que ce qu'il a écrit finisse dans une poubelle, parce que le scénario n'a pas d'autre but que la poubelle. Mais disons que ce métier-là peut être très agréable, il peut être bien rémunéré, il donne extrêmement de privilèges dans la vie. Mais je pense qu'il est quand même un tout petit peu contraint, disons, par rapport à ce que c'est que réaliser un film, qui est avoir une responsabilité absolue sur l'œuvre, ou écrire de la littérature, qui est quelque chose qu'on fait tout seul aussi dans un coin et dont on est absolument responsable.
Pourtant, je pense à des scénaristes de génie comme Charlie Kaufman, qui écrit à côté.
Qui est devenu réalisateur.
Oui, c'est vrai, mais ces films, en fait, sont moins bien. Enfin, ça, c'est personnel, mais...
Ça ne veut pas dire que les scénaristes doivent devenir des bons réalisateurs ou des bons écrivains. Il y en a beaucoup qui sont devenus de très mauvais écrivains, de très mauvais scénaristes, de très mauvais réalisateurs, pardon. Et donc, on peut se dire qu'ils auraient dû rester scénaristes, mais bon, c'est...
Alors, télétransportons-nous en Chine. Là, on est en 93 et au Festival de Cannes est projeté Adieu ma concubine de Chen Kaige. Et là, j'aimerais que vous nous parliez, Santiago Amigorena, de votre côté un peu excessif. Et du chinois Jussieu et du fait de ne manger que du riz.
Oui, bon, je suis quelqu'un qui est excessif dans le peu, je dirais. C'est-à-dire que... Je suis excessif dans certains rituels, dans voilà des habitudes.
Lever avant le soleil.
Me lever avant le soleil, bon ça c'est pas extrêmement original. Je pense que la plupart des écrivains écrivent la nuit ou le matin tôt, c'est-à-dire à des moments où le monde est un peu éteint, où la maison est calme. Il n'y a pas de bruit. D'ailleurs, très souvent, ils font la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils écrivent jeune la nuit, et après, quand ils se rendent compte que la nuit, quand même, c'est difficile de rester réveillé, ils commencent à écrire le matin, c'est ce que j'ai fait. Mais je suis excessif dans tout le reste. Pour mimer un autre auteur que j'aime beaucoup, dans l'île où je vais en vacances depuis 50 ans, souvent, en tout cas quand j'y suis seul, sans mes enfants... Les gens de l'île me disent qu'ils savent quelle heure il est quand ils me voient passer, parce que je fais exactement toujours la même chose à la même heure, sans forcément regarder ma montre. Mais...
Vous êtes l'horloge de l'île.
Voilà.
L'étude de vous-même est-elle aisée, vous, dont le père, dont les parents d'ailleurs étaient psychanalystes ?
Oui, mes deux parents étaient psychanalystes, oui.
Alors c'est facile de vous étudier, pour vous ?
Je pense que je m'étudie... J'espère le plus loin possible de la psychanalyse. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout le fait d'attribuer quelque chose de qui m'est contemporain. C'est-à-dire que je pourrais pas dire qu'aujourd'hui je vis d'une certaine manière parce que dans mon histoire, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est réel, justement, dans le passé. Je continue à me battre pour que le passé soit contingent, c'est-à-dire qu'on ne sache pas ce qui s'est passé vraiment et que ce qui est, voilà, et trouver peut-être la plus belle option possible d'un passé. Évidemment, ça embellit un peu ma vie, parfois, mais je pense que c'est ça qu'on doit transmettre, quoi. C'est pas de rester prisonnier d'un traumatisme ou d'expliquer son impossibilité à faire des choses ou sa nostalgie, sa mélancolie ou sa perversion par des traumatismes passés.
Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour.
Il est écrit « Ne juge point et tu ne seras point jugé ».
Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance.
Que sollicitez-vous à Versailles ?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Il est moins sot qu'il n'en a l'air.
C'est toute la différence entre nous, monsieur.
Santiago Amigorena, là, on est au Festival de Cannes, au moment où Ridicule de Patrice Lecomte est projeté, ainsi que Trainspotting et Crash, trois ambiances très différentes. Et j'ai choisi Ridicule déjà parce que j'ai revu cette année et c'est un très bon film. Et ça m'a fait penser à la société. Et j'ai envie de vous demander de décrire ce que sont vos dîners du vendredi qui imitaient les mardis de Mallarmé.
Ça va être un peu le sujet du prochain livre, donc mais je peux en parler. Voilà, je cite une phrase de mon prochain livre. Ça, je pensais pas le faire, mais il y a une phrase qui pour moi est très importante et que j'ai écrite il y a, je sais pas, peut-être 20 ou 25 ans, et que j'ai toujours été sûr qu'elle serait dans ce dernier livre. Parfois, je me disais que ce serait la première phrase. Finalement, elle va revenir souvent, mais c'est pas la première phrase. C'est une phrase très importante pour moi, qui n'aura peut-être aucune importance pour personne ici. Mais la phrase, c'est « Ce fut un mercredi qu'Antoine proposa que nous fissions nos jeudis ». Voilà, parce que dans ces dîners, il y a une sorte d'histoire, de préhistoire des dîners. On a commencé par des mercredis, on est passé à des jeudis, et après c'est devenu des vendredis. Donc voilà, c'est ce qui est... pour moi, résume un peu dans ma vie l'amitié. Donc, c'est plus du tout du côté de l'amour, mais c'est du côté de l'amitié.
Dont il est beaucoup question aussi dans votre livre.
Et il en sera encore plus question dans le prochain.
Et alors, les dîners du vendredi ?
Donc, les dîners de vendredi, c'était des dîners où on réunissait des gens, en général une douzaine. Il y avait très peu de règles, mais il y avait une règle, par exemple, qui était de ne pas jamais parler en même temps. C'est-à-dire que on était une douzaine, mais quand on parlait tous ensemble. C'est-à-dire que si on avait un qui parlait, les autres écoutaient. Et c'est très difficile, en fait, à 12. C'est-à-dire qu'à 12, on se rend compte très vite que tout le monde commence à parler à 2, à 3. Et donc, chaque fois, on était strict, on arrêtait ça.
Maybe
Still, I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love.
Le standard de ce soir, c'est The Man I Love d'Ella Fitzgerald, chanson qui apparaît dans votre ouvrage Santiago Amigorena, le Festival de Cannes ou Le Temps Perdu. Vous écoutez La 20e Heure sur France Inter et voici votre choix musical.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Qu'est-ce qu'on entend?
On a Atahualpa Yupanqui, un chanteur argentin. Donc c'est une chanson très connue en Argentine. Los Hermanos.
Les frères.
Les frères qui parlent en fait du fait qu'on est tous frères. Et il raconte donc c'est plutôt sa vie à lui en parlant à la première personne. Et donc il dit qu'il a beaucoup de frères et il finit par dire qu'il a une sœur qui s'appelle Liberté. Voilà, c'est un chanteur, comme tellement de chanteurs sud-américains, assez engagés, mais qui avait cette particularité d'être aussi très très lié à son peuple.
On mettra la référence sur le site internet. Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi une théorie féministe de la violence de Françoise Vergès.
Oui.
Publiée à La Fabrique.
Oui, c'est... Bon, on va pas en parler très longtemps, je pense. Mais je pense que c'est assez important de lire ces quelques féministes qui sont un peu... Ils sont au-delà du féminisme ambiant. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant la manière dont elle lie le combat féministe au combat politique en général. Dont elle montre comment la violence qu'on peut exercer sur une femme n'est pas du tout la même si la femme est blanche ou noire ou arabe en France. Elle donne des exemples qui sont assez drôles, des excès qu'on peut avoir. Par exemple, elle parle de la première femme qui est devenue juge à la Cour suprême aux États-Unis. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut présenter comme une victoire qu'il y ait une femme enfin dans cette institution tellement importante aux États-Unis, alors que cette femme était contre tous les combats féministes. Donc voilà, c'est les paradoxes des combats politiques et c'est fait d'une manière très brillante.
Alors, en parlant de paradoxe, vous écrivez, page 254, Santiago Amigorena, « L'écriture ne soulage pas, mais elle soulage quand même. »
C'est ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on est dans des impossibilités tellement grandes à dire ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que quand on écrit, je pense qu'on est... Sauf quand on se dit qu'on va écrire une histoire et que c'est une histoire simple, qu'on veut transmettre de la plus simple de manière... Mais si on pense que la littérature est surtout ce qui interroge le langage, c'est-à-dire ce qui interroge quelque chose qui fait de nous des êtres humains et qui est très profond, et qui est peut-être le plus grand sujet de la pensée humaine depuis les présocratiques, on est devant ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne peut que se retrouver impuissant à utiliser ce moyen pour l'interroger lui-même. Et donc l'écriture... Moi, elle me soulage parce que je dois survivre à mon passé et que ma seule manière de survivre à mon passé, c'est de l'écrire. Mais en même temps, elle me torture parce qu'elle m'éloigne de la réalité constamment. Donc dans ce tiraillement, je cherche encore, et je pense que je chercherai toujours, qu'est-ce qui peut me soulager véritablement sans m'accabler.
Dans votre livre, vous donnez raison à Blanchot, l'écriture est un suicide perpétuel. Avez-vous une once de masochisme en vous ?
Je pense que j'en ai aucun, justement.
Ah oui ?
Que c'est ça qui est particulier. Bon, je vais continuer à dire un peu de mal de moi pour qu'on ne pense pas que je fais ça seulement par écrit, mais c'est peut-être ça qui me manque un peu, parfois, quand j'écris, d'être véritablement masochiste. Et voilà, je m'inflige l'écriture, on peut le dire, mais je me l'inflige pour des raisons aussi extérieures. Je pense que l'exil, le fait d'avoir perdu ma langue maternelle, par exemple, m'a contraint à écrire. Que des défaites amoureuses m'ont contraint aussi à écrire. Mais le vrai rapport à l'écriture, je n'en souffre pas comme en ont souffert des écrivains que je cite. J'en cite beaucoup qui se sont suicidés pour de vrai.
Tu, l'intellettuale, perché non trovi qualcosa per farci divertire? Ti aumento lo stipendio. Nadia prima ha dato prova di buona volontà con lo spogliarello, però non è riuscita a scaldare l'ambiente. Su, inventa qualcosa.
Io ne ho 1000, 2000 di idee. Vi posso tenere chiusi qua dentro una settimana senza annoiarvi, però dovete fare tutto quello che dico io.
Dans un article sur vous paru en 2006 dans Libération, Santiago Amigorena, on peut lire « Le jour où il voit la Dolce Vita de Fellini, il se dit qu'il n'a plus besoin d'aller au cinéma ». On entend un extrait du chef-d'œuvre de Fellini qui figure dans votre livre, et la fin de votre ouvrage, sans révéler évidemment ce qu'il s'y passe, a un caractère fellinien avec des fantômes d'êtres aimés.
Oui, quand je disais ça, bon, évidemment c'était un peu un calembour. En 2006, je venais de réaliser le premier film que j'ai réalisé. Mais c'est vrai que je pense que depuis 2006, je vais être un peu extrême, mais j'ai peut-être vu plus de fois la Dolce Vita que je n'ai vu d'autres films différents. Donc ça m'a pris plus de temps de continuer à voir la Dolce Vita que d'aller au cinéma, à part les festivals. Je vois parfois plusieurs films, surtout quand je suis juré. Mais sinon, je vais très peu au cinéma. Et par contre, je revois la Dolce Vita très régulièrement. Et effectivement, dans cette fin, quoi, bon, je vois la Dolce Vita parce que je m'identifie un peu outre mesure à ce personnage de Marcello qui veut être écrivain et qui perd son temps à écrire des bêtises pour des journaux sans intérêt. Donc voilà, j'ai souvent parlé de mon travail de scénariste plutôt sous ce ton-là, donc d'avoir perdu mon temps à écrire des films alors que c'était pas essentiel pour moi, au lieu de d'écrire que de la littérature. Je me suis senti Marcello à Cannes très souvent. Après, Proust m'a appris d'une certaine façon que le temps perdu n'est pas perdu. Quoi. Le temps perdu, c'est ce qu'on va retrouver après dans l'écriture, quand on écrit, et c'est ce qui fait qu'on peut se dire qu'on a vécu.
Vous le relisez toujours tous les 2 ans, Proust ?
C'est un peu plus, disons, c'est irrégulier, mais bon, ça m'est arrivé de finir la recherche un soir et de recommencer à la première page le lendemain. C'est-à-dire, quand je dis que je l'ai lu en boucle, c'est un peu vrai. Mais par exemple, là, pour écrire ce livre-là, j'ai eu envie, j'ai eu besoin de ne relire que Le Temps Retrouvé. Donc j'aurais lu Le Temps Retrouvé tout seul. C'était la première fois que ça m'arrivait de prendre une partie de la recherche.
Il nous reste quelques secondes. Je vais vous poser une question à laquelle il faudra répondre très brièvement.
Oui.
Dans vos notes en espagnol, il y a les paroles d'une chanson argentine, La Última Curda d'Aníbal Troilo. Je crois qu'on traduit par la dernière ivresse, c'est de l'argot. Votre dernière ivresse, en 10 secondes.
Ma dernière ivresse. Je pense que c'était à Cannes la dernière.
Je parlais plus métaphoriquement.
Ah, ma dernière ivresse, elle est continuelle. Moi, c'était ce matin en écrivant aussi.
Merci beaucoup, Santiago Amigorena.
Merci à vous.
Votre ouvrage, Le Festival de Cannes, est paru aux éditions POL. À signaler aussi, vous avez coécrit avec Cédric Clapiche le scénario de son film La Venue de l'Avenir, qui sera présenté hors compétition au Festival de Cannes le jeudi 22 mai, jour de la sortie en salle. Cette émission a été réalisée par Mathias Volant, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Selim Guéribi.